Chapitre 22 Versets 1 à 5 La Nouvelle Jérusalem. Citation de l'Écriture. Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et du fleuve, de çà et de là, était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. Et ses esclaves le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe et de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux, et ils régneront au siècle des siècles. Fin de citation. Ce premier paragraphe termine la description de la Nouvelle Jérusalem commencée au verset 9 du chapitre précédent. Versets 1 et 2. Nous avons vu que seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau entreront dans la cité. Maintenant, nous voyons la provision éternelle pour le soutien de la vie. La vie des croyants est bien la vie éternelle, mais elle n'en est pas moins une vie dépendante. Elle n'est pas séparée de Christ. La rivière et l'arbre sont des symboles qui placent Christ devant nos âmes de façon très bénie. De plus, il parle de Christ en rapport avec la vie, car le fleuve est le fleuve d'eau vive et l'arbre est l'arbre de vie. Christ n'est pas seulement la source de vie par laquelle nous recevons la vie, selon ses propres paroles, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Mais, comme fleuve de vie, il est celui qui soutient la vie qu'il donne. Ainsi, l'apôtre Paul peut dire « Christ vit en moi, et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. » Galates 2, verset 20. La vie nouvelle est soutenue par Christ dans tout son merveilleux amour comme objet devant l'âme. Hélas, il se peut que nous ne gardions pas les yeux fixés sur Christ et que nous vivions ainsi faiblement la vie nouvelle que nous avons. Au jour de gloire, la vie nouvelle sera soutenue et pleinement appréciée, car nous aurons Christ devant l'âme sans entrave et boirons ainsi du fleuve d'eau vive. Ainsi peut-on dire avec le cantique « Ô Christ !» Il est la fontaine, le puits doux et profond de l'amour. J'ai goûté au courant sur la terre, j'y boirai là-haut plus profondément. De plus, le fleuve de vie est éclatant comme du cristal. Tout reflet de Christ, vu l'un dans l'autre, aidera à soutenir la vie nouvelle. Mais en nous, le courant est souvent souillé par les choses de la terre et reflète donc peu la beauté de Christ. En Christ, le fleuve d'eau vive est éclatant comme du cristal. Toute sa personne est désirable. Le fleuve sort du trône de Dieu et de l'agneau. Dieu est la source bénie de cette vie, car c'est la vie éternelle que Dieu qui ne peut mentir a promise avant les temps des siècles. Mais cela nous vient par Christ comme agneau, celui qui a été élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. De plus, si la vie en nous est une vie dépendante, elle est aussi féconde. Si Christ est le fleuve de vie dont nous buvons pour soutenir la vie, il est aussi l'arbre de vie dont nous nous nourrissons pour avoir une vie féconde. Même maintenant, si nous nous asseyons sous son ombre, comme l'épouse du Cantique des Cantiques, nous trouverons son fruit doux à notre palais, et, demeurant dans son amour, nous porterons du fruit, comme aussi, dans notre petite mesure, nous reflétons ses excellences. Au jour de gloire, rien n'empêchera nos âmes de se délecter à se nourrir de Christ. Il n'y aura plus les chérubins et la lame de l'épée qui tournaient çà et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Car l'arbre sera au milieu de la rue, en accès libre à tous dans cette belle cité. De plus, le fruit n'est pas seulement gratuit, il est toujours disponible. Car l'arbre de vie rend son fruit chaque mois. Ainsi, considérant cette cité glorieuse, nous voyons que le dessein éternel de Dieu est que les saints trouvent en Christ celui qui soutient la vie et la rend belle de la beauté qu'il a mise sur nous. Si tel est son dessein pour nous dans la gloire, c'est son désir pour nous dès maintenant. Hélas, ce n'est que petitement que nous pouvons boire de l'eau de la vie, ou nous nourrir de l'arbre de vie maintenant. Mais bientôt, notre part éternelle sera de boire du fleuve éternel de la vie, nous nourrir de l'éternelle nourriture de la vie. Christ, le fruit et le donateur de la vie, sauvé par son sang rédempteur. De plus, nous voyons que les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. L'Église, dans la gloire, au-delà de toutes ses peines, jouira du fruit de l'arbre de vie. Mais sur la terre, les nations auront traversé les douleurs de la tribulation qui s'abattra sur le monde entier. Celui qui apporte du fruit à l'Église apportera la guérison aux nations, car c'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bandent leurs plaies. Psaume 147, verset 3. Versets 3 à 5. En regardant en arrière, au jardin d'Éden, nous nous souvenons que l'arbre de vie y était. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et Dieu descendait pour marcher avec l'homme dans cette belle scène. Hélas, l'homme ayant péché, Dieu ne pouvait plus habiter avec l'homme. Le chemin de l'arbre de vie était barré, et la malédiction était sur tout. En regardant devant, nous avons une vision de l'Église dans la gloire et y trouvons l'arbre et le fleuve accessibles à tous, car il n'y aura plus de malédiction. La malédiction étant à jamais ôtée, le dessein de Dieu d'habiter au milieu de son peuple peut être accompli. Ainsi, nous lisons, le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. De plus, les saints glorifiés se réjouiront de servir celui qui habite au milieu d'eux. Au cours de leur passage dans le temps, ils ont peut-être été de pauvres serviteurs inutiles. Dans la gloire à venir, débarrassés de tout motif indigne, ils le serviront d'un cœur dévoué, sans partage. Enfin, dans la proximité et l'intimité de sa présence, ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Ils verront sa beauté, et lui, regardant les rachetés, verra son glorieux caractère reflété sur leur visage. Dès à présent, contemplant par la foi la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. Mais quand enfin la foi sera changée en vue, et que nous le verrons face à face, nous serons conformes à son image. Nous verrons sa face, et il sera vu en nous. Regardez au-dedans et ne pas voir de tache. Au-dehors, ne voir aucune malédiction. Ne pas verser de larmes, ne pas sentir de douleur, mais le voir face à face. Puis il est dit, il n'y aura plus de nuit. Notre regard est souvent obscurci maintenant par les brumes de la terre. Nous voyons à travers un verre obscurément. Mais quand enfin nous le verrons face à face, les ténèbres seront passées, car il n'y aura plus de nuit là, et nous connaîtrons comme nous avons été connus. Notre connaissance ne résultera pas de quelque aide artificielle, ni ne proviendra de sources naturelles. Nous n'aurons besoin ni d'une lampe ni de la lumière du soleil, car la source de toute la lumière, en ce jour glorieux, sera dans le Seigneur Dieu lui-même. De plus, l'Église sera associée à Christ pour l'éternité, car nous lisons, « Ils régneront au siècle des siècles. » Dieu et l'agneau seront là la lumière et le temple, et les armées radieuses partageront à jamais le mystère dévoilé. Versets 6 à 21, exhortation finale. Citation de l'Écriture. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et que j'eus vu, Je tombai à terre pour rendre hommage devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Et il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'esclavage, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Rends hommage à Dieu. » Et il me dit, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Dehors sont les chiens et les magiciens et les fornicateurs et les meurtriers et les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Moi, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Fin de citation. Versets 6 et 7. Dans les derniers versets de l'Apocalypse, nous avons non seulement la conclusion formelle de la prophétie, mais celle de toute la parole de Dieu. Plusieurs passages affirment le principe que, par la bouche de deux ou de trois témoins, toute affaire sera établie. 2 Corinthiens 13, verset 1. Pour fortifier la foi et réprouver l'incrédulité, nous avons dans ces derniers versets un triple témoignage des paroles de la prophétie de ce livre. L'ange dit « Ces paroles sont certaines et véritables » verset 6. L'apôtre dit « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses » verset 8. Le Seigneur lui-même dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées » verset 16. Combien il est alors sérieux de rejeter ou de négliger les paroles de ce livre? Cela signifie non seulement d'être indifférent au témoignage angélique et au témoignage apostolique, mais que le témoignage de Jésus lui-même est ignoré. S'il est donc si solennel de négliger les grandes vérités de l'Apocalypse, nous pouvons demander qu'est-ce qui conduira à garder précieusement les paroles de ce livre dans le cœur? La réponse est simple. Ce n'est que si nos âmes jouissent, par la foi, de la grande vérité de la venue du Seigneur que nous apprécierons les paroles de cette prophétie. Nul n'interprétera correctement l'Apocalypse, à moins de croire et de chérir la vérité de la seconde venue de Christ. Cette grande vérité est le fait central du livre de l'Apocalypse. Les premiers versets l'affirment. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Chapitre 1, verset 7. Au cours du livre, cette grande vérité est maintes et maintes fois placée devant nous. Et, finalement, dans ces derniers versets, nous avons une triple présentation de la venue du Seigneur. Versets 7, 12 et 20. L'Apocalypse nous dévoile des événements qui précéderont sa venue. Elle nous instruit sur la manière dont se passera sa venue et nous révèle les événements solennels et glorieux qui suivront sa venue. Chérissant l'espérance de son retour, chaque événement qui précède ou suit sa venue aura pour nous le plus profond intérêt. Ainsi, au verset 7, la venue de Christ et les paroles de la prophétie sont étroitement liées. Versets 8 et 9. De plus, dans ces derniers versets, nous voyons que l'effet de ces prophéties sur l'âme du croyant est de conduire à un esprit d'adoration. Ainsi, l'apôtre dit : C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et que j'eus vu, je tombai à terre pour rendre hommage. Il avait vu le Seigneur dans la gloire au milieu des assemblées en ruine sur la terre, et il avait vu l'agneau au milieu des saints glorifiés dans le ciel. Il avait été transporté dans un désert pour voir le jugement de la grande ville Babylone, et il avait été transporté sur une haute montagne pour voir les gloires de la sainte cité, Jérusalem. Il avait vu le jugement des nations à la venue de Christ, et vu le jugement des morts au grand trône blanc. Il avait regardé dans l'éternité et vu le nouveau ciel et la nouvelle terre, où toute larme sera essuyée, et où il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs. Il avait entendu le ciel et la terre s'unir pour célébrer les gloires de l'agneau, et entendu tout le ciel se réjouir des noces de l'agneau. Pouvons-nous nous étonner alors qu'après avoir vu de telles visions et entendu de telles choses, il soit tombé pour adorer? Il est vrai qu'il adorait au pied de la mauvaise personne, mais il a fait la bonne chose. L'objet d'adoration ne doit pas être le messager angélique qui nous parle de ces choses merveilleuses, mais celui qui envoie le messager et qui seul peut amener ces puissants événements à se produire. C'est pourquoi l'ange dit « Rends hommage à Dieu ». Versets 10 et 11. Suit un mot d'avertissement. Nous ne devons pas refermer les paroles de la prophétie de ce livre comme si les événements annoncés étaient pour un temps très lointain. Il a déjà été dit que l'ange a été envoyé par le Seigneur pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 6. Maintenant, il nous est dit que le temps est proche, le temps où toutes ces choses solennelles et ces gloires que Jean avait vues en vision seront accomplies de fait. Quand ce moment viendra, la condition de chacun sera fixée. L'injuste sera encore injuste. Celui qui est souillé sera encore souillé. Les justes seront encore justes. Le saint sera encore saint. L'impur ne deviendra jamais saint. Le saint ne deviendra jamais souillé. Aujourd'hui, c'est en effet le jour de la grâce, où les souillés peuvent être lavés de toute leur souillure. Mais ici, il s'agit de l'éternité, où la condition de tous sera fixée. Versets 12 et 13. La parole d'avertissement est suivie d'une parole d'encouragement. Non seulement le temps est proche, mais le Seigneur lui-même est proche, car il dit « Voici, je viens bientôt ». Dans ces derniers versets, la venue du Seigneur nous a déjà été présentée pour nous encourager à chérir les paroles de cette prophétie. Maintenant, sa venue est présentée pour nous encourager à continuer dans son service béni au milieu des difficultés croissantes des derniers jours. C'est pourquoi nous entendons le Seigneur dire « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. » On peut faire grand cas de professions religieuses pour gagner les applaudissements des hommes. Au sujet de tels, le Seigneur peut dire « Ils ont leur récompense. » Matthieu 6, versets 2, 5 et 16. Mais ce n'est pas la récompense de Christ, et c'est une récompense sans Christ. Car, dit le Seigneur, « Ma récompense est avec moi. » Pour jouir de la récompense de Christ, nous devons attendre son retour. Quel encouragement à continuer à servir le Seigneur paisiblement, peut-être dans l'obscurité et inconnue des hommes, et peut-être peu apprécié du peuple de Dieu. Néanmoins, tout est sous l'œil du Seigneur. Il sait, il n'oubliera pas, et quand il viendra, la moindre action faite pour lui, le moindre sacrifice pour lui, chaque coupe d'eau froide donnée pour l'amour de son nom, aura sa brillante récompense. Mais ce sera avec lui. Comme toujours dans l'Écriture, la récompense est présentée non comme objectif, mais comme encouragement à persévérer. au milieu de la souffrance et de l'opposition. Quand le Seigneur était ici-bas, il y avait ceux qui le suivaient pour les pains et les poissons. Mais dans le même chapitre, il est dit qu'ils se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Jean 6, versets 26 et 66. Christ seul peut retenir nos affections et devenir l'objet de tout vrai service. Comme quelqu'un l'a dit, les récompenses suivront bientôt. Mais les saints ne suivent pas les récompenses, mais le Seigneur. Puis, les gloires de celui qui vient et que nous cherchons à suivre et à servir, nous sont rappelées. Il est celui qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » En tant qu'alpha et oméga, il est la parole, celui qui est la pleine révélation de Dieu. En tant que le commencement et la fin, il est le Créateur par qui toutes choses ont été créées, qui peut dissoudre les choses qu'il a faites et faire paraître de nouveaux cieux et une nouvelle terre. En tant que le premier et le dernier, il est le Dieu éternel avant toutes les choses créées. L'Éternel peut ainsi dire par Ésaïe, « Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a pas de Dieu. » Ésaïe 44, verset 6. Versets 14 et 15. Si chaque œuvre faite pour l'amour du Seigneur a sa récompense, il est cependant rappelé qu'aucune œuvre que nous aurions accomplie ne donnera droit à l'arbre de vie ou à l'entrée dans la sainte cité. Pour être dans le cercle de la bénédiction éternelle et jouir de Christ comme arbre de vie dans la demeure éternelle de la vie, l'âme doit être lavée dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi l'ange peut dire « Bienheureux ceux qui lavent leurs robes ». Nous sommes alors avertis que s'il est glorieux d'entrer par les portes dans la cité, il est très solennel d'être dehors. Ceux qui sont à l'intérieur de la cité seront en présence de l'agneau et en compagnie des rachetés qui ont lavé leurs robes. Il n'y entrera aucune chose souillée, ni ce qui fait une abomination et un mensonge. À l'extérieur de ce cercle de bénédiction, il n'y aura que les chiens, et les magiciens, et les fornicateurs, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Verset 16. L'ange a donné son message, et c'est finalement le Seigneur lui-même qui parle maintenant. Les scènes solennelles du jugement, les gloires à venir de la cité céleste, la béatitude du règne millénaire, la parfaite félicité du nouveau ciel et de la nouvelle terre, sont toutes passées devant nous, et nous nous retrouvons enfin seuls avec celui de qui tout dépend, seul avec Jésus. Celui qui peut dire « Moi, Jésus » a le dernier mot. Des anges ont parlé, des anciens ont parlé, des trompettes ont sonné, la voix de grande multitude a été entendue, ainsi que le son de tonnerre puissant. Et enfin, tout cède la place à celui qui est au-dessus de tout. La voix de Jésus se fait entendre. À mesure que les merveilles de ce livre sont dévoilées, Christ est présenté dans ses gloires et ses dignités comme le fidèle et le véritable, la parole de Dieu, le roi des rois et seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, et le commencement et la fin. Des titres qui nous frappent par sa grandeur et sa majesté. Mais dans cette scène finale, il se présente sous le nom qui fait vibrer nos cœurs et éveille nos affections, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. C'est sous ce nom qu'il est venu dans le monde, car à sa naissance il est dit « Tu appelleras son nom Jésus ». C'est sous ce nom qu'il sortit du monde, car sur sa croix nous lisons « Celui-ci est Jésus. » C'est avec ce nom qu'il monta dans la gloire, car les anges dirent « Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière. » C'est sous ce nom que nous le voyons dans la gloire, car dit l'apôtre « Nous voyons Jésus, couronné de gloire et d'honneur. » Et c'est sous ce nom qu'il nous parle de la gloire, disant « Moi, Jésus. » Nous avons des gloires et des bénédictions inestimables en perspective, Mais à présent, nous sommes seuls dans le désert avec celui qui se présente si tendrement comme « Moi, Jésus ». De plus, il rappelle à nos cœurs tout ce qu'il est en tant qu'homme céleste. Qu'y a-t-il de plus important ou de plus béni que d'avoir une personne vivante devant nos âmes? Jésus là où il est, et Jésus tel qu'il est. Sur la terre, il a été méprisé et rejeté des hommes. De la gloire, il peut dire « Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Premièrement, le Seigneur peut dire « Je suis la racine de David. » S'il n'avait été que la postérité de David, cela aurait pu être dit de Salomon. Mais Jésus seul pouvait être la racine de David. La racine est la source cachée de la vie. Christ est la source de la vie spirituelle de tous les saints, et la bénédiction est certaine parce que la racine est parfaite. Job peut dire « Il y a de l'espoir pour un arbre. S'il est coupé, il repoussera. » Si sa racine vieillit dans la terre, à l'odeur de l'eau, il poussera et fera des branches. Job 14, versets 7 à 9. Israël a en effet failli. L'arbre a été balayé par la tempête parmi les nations. Mais la racine demeure. Par conséquent, Israël poussera et fera à nouveau des branches. Ainsi, l'Écriture peut parler des grâces assurées de David, car Christ est la racine de David. Deuxièmement, Jésus est aussi la postérité de David. Si comme racine, il est la source de tout, comme postérité, il est l'héritier de tout. Il est de la lignée royale, et en tant que fils de David, il est le roi de Dieu pour établir le royaume de Dieu. Les nations peuvent s'agiter, et les peuples méditer la vanité. Aujourd'hui, nous voyons que, dans leur folie, les puissances de ce monde pensent pouvoir se débarrasser de Dieu et du roi de Dieu, et ainsi s'emparer de l'héritage de ce monde et établir un royaume dans lequel l'homme peut satisfaire ses propres convoitises sans que Dieu le retienne. À cette fin, ils peuvent se lever et tenir conseil ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Néanmoins, Dieu peut dire « Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. » Les hommes ont cloué Jésus sur une croix. Dieu l'a placé comme le roi des rois sur le trône, et tous ceux qui ne se soumettront pas au roi de Dieu périront dans le chemin. Psaume 2, verset 12. Troisièmement, Jésus est l'étoile brillante du matin. Il est présenté comme tel en rapport avec l'Église. D'autres le connaîtront dans toute sa gloire royale comme la racine et la postérité de David. Le monde le connaîtra comme le soleil de justice qui se lèvera pour chasser les ténèbres et apporter la guérison à ce monde accablé de douleur. Mais seule l'Église le connaîtra comme l'étoile brillante du matin. Quand le soleil brille, on ne voit pas les étoiles. Il ne s'est pas encore levé en tant que soleil de justice au-dessus de l'horizon de ce monde obscur. Mais, alors qu'il fait encore nuit, il est connu du cœur du croyant comme l'étoile brillante du matin. Deux autres passages présentent Christ comme l'étoile du matin. L'apôtre Pierre écrit « Nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. » 2 Pierre 1, verset 19. La prophétie est une lumière dans les ténèbres. Christ est l'étoile du matin. Il est vrai que les deux brillent dans l'obscurité, mais avec cette différence entre la lampe et l'étoile du matin, la lampe me dit que l'obscurité est là, l'étoile me dit que le jour arrive. La prophétie nous avertit de l'état du monde qui nous entoure et des jugements vers lesquels il se hâte. Nous ferions bien d'y être attentifs, comme le dit l'apôtre. Ainsi, la prophétie a pour effet de nous arrêter de mettre toutes nos espérances en ce présent siècle et de les centrer en Christ. Il est vu comme celui qui vient, et quand nos affections sont attirées vers Christ comme le centre de toutes nos espérances, alors, en effet, on peut dire que l'étoile du matin s'est levée dans nos cœurs. Et encore, dans la lettre à Thyatire, le Seigneur peut dire au vainqueur « Je lui donnerai l'étoile du matin » Apocalypse 2, verset 28. Le Seigneur dit aussi au vainqueur « Je lui donnerai autorité sur les nations ». Mais s'il offre au vainqueur la récompense de l'autorité pour le futur, il donne également une part pour son cœur pour le présent. Au milieu des ténèbres morales et spirituelles de Thyatire, le vainqueur jouira de Christ connu dans son cœur comme l'étoile du jour à venir. Dans cette scène finale, Christ est présenté non seulement comme l'étoile du matin, mais comme l'étoile brillante du matin. Dans les mains de l'homme, tout perd de son éclat, mais Christ dans les cieux est hors de portée des rudes mains de l'homme. Il brille d'un éclat non terni. Il est l'étoile brillante du matin. Ayant l'étoile du matin dans nos cœurs, nous pouvons regarder dans l'obscurité de la nuit et attendre la gloire à venir, le matin sans nuages. Il est significatif que Christ ne soit révélé comme l'étoile du matin que lorsque la ruine de la chrétienté s'est installée. Quand Pierre a écrit sa deuxième épître, l'ombre de l'apostasie planait déjà sur la profession chrétienne. De faux docteurs se levaient, qui reniaient le Seigneur qui les avait achetés. Beaucoup suivraient leurs excès et la voie de la vérité serait blasphémée. L'apôtre n'offre aucun espoir d'amélioration, aucune perspective de restauration de la profession déchue. Mais l'étoile du matin s'était levée dans son cœur, et il regardait ainsi au-delà des ténèbres vers le jour à venir. Ses espérances étaient centrées sur Christ. Verset 17. Immédiatement après cette présentation touchante de Christ, l'Église apparaît à nouveau comme l'épouse de Christ. La connaissance de la ruine de l'Église entre les mains des hommes ne nous rendra pas indifférents à l'Église selon les conseils de Dieu, sous le contrôle de l'Esprit. Être indifférent envers l'Église, en tant qu'épouse, serait être indifférent à ce qui, dans ce monde, est le plus proche et le plus cher au cœur de Christ. En Christ, nous voyons le propos de Dieu de nous donner un objet qui puisse satisfaire nos cœurs. Mais dans l'Église, en tant qu'épouse, nous voyons une chose encore plus merveilleuse. Son propos de présenter à Christ l'Église comme un objet qui lui est propre, digne de son amour et pour la satisfaction de son cœur. Le livre de la Genèse s'ouvre par cette grande vérité. Avant que s'introduise le péché, Dieu dévoile en Ève présentée à Adam le grand secret de son cœur d'avoir un objet propre à l'amour de Christ. À travers les siècles, Dieu n'a jamais abandonné son grand dessein. Malgré la puissance de Satan, le mal de l'homme et la ruine de la profession chrétienne, Dieu a maintenu son cap majestueux qui s'élève au-dessus de toutes les puissances qui s'opposent, accomplit son dessein et garantit un objet pour le cœur de Christ. Ainsi, à la fin de son livre, l'épouse de l'agneau est présentée à notre vue. Combien cette dernière vision de l'épouse est bénie. Elle est vue ici à la fin de son voyage dans le désert, contrôlée totalement par l'Esprit, et donc ayant Christ pour seul objet. Le résultat est que l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Guidés par l'Esprit, nous ressentons la désolation que le péché a causée dans le monde et nous soupirons. Et conduits par l'Esprit, nous regardons à Christ comme l'étoile brillante du matin qui inaugurera le matin sans nuages et éteindra le soupir de la création, et nous disons « Viens ». Notons ensuite ce qui suit. Sous le contrôle de l'Esprit, et donc dans de justes relations avec Christ, l'Église est prête à rendre témoignage de Christ à d'autres. Le désir de sa venue n'entravera pas notre témoignage envers le monde qui nous entoure. Au contraire, cela devient le motif le plus puissant pour désirer la bénédiction des autres. Nous ne sommes jamais aussi moralement aptes à rester et à témoigner pour Christ que lorsque, par affection, nous aspirons à aller et à être avec lui. Ce témoignage s'adressera d'abord à ceux qui entendent. Pour de tels, le témoignage est « Que celui qui entend dise « Viens ». Le fait qu'ils entendent semblerait indiquer que ce sont de vrais croyants. Le fait qu'il leur ait dit de dire « Viens » montreraient qu'ils ne sont pas dans la joie consciente de leur relation avec Christ en tant qu'épouse. Deuxièmement, le témoignage s'adresse à ceux qui ont soif. Il y a des âmes qui ressentent un peu leurs besoins et aspirent à participer aux bénédictions que Christ peut accorder. Pourtant, il se peut qu'elles doutent de la grâce de son cœur, de sa puissance et de sa volonté de sauver. Mais l'épouse connaît le cœur de Christ, et à ceux-là, elle peut dire « Viens ». Tu es bienvenu en Christ. Que celui qui a soif vienne. Enfin, il y a le monde insouciant de sa condition et de sa perte. Mais la grâce de Dieu porte avec elle le salut pour tous. Et l'Église, ayant goûté cette grâce, peut dire que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Combien il est touchant que le dernier appel de Christ dans la gloire soit celui de l'Évangile à un monde dans le besoin. Et notons bien l'étendue de cet appel. Comme on l'a dit, il n'y a pas d'homme au monde auquel Jésus ne fasse appel. Il s'est donné en rançon pour tous. Et il a donc le droit de faire appel à tout homme, quel qu'il soit, à prendre l'eau de la vie gratuitement. Quiconque veut peut boire l'eau de la vie sans argent et sans prix. Versets 18 à 21. Après l'avertissement solennel qu'il y a à ajouter ou à retirer des paroles à la prophétie de ce livre, nous avons pour la troisième fois dans ces derniers versets la promesse du Seigneur qu'il vient bientôt. La première occasion présente sa venue comme une incitation à garder les paroles de cette prophétie, verset 7. La seconde présente sa venue en rapport avec ses récompenses pour nous encourager dans notre service, verset 12. Pour cette dernière occasion, nous perdons de vue la prophétie, le service et les récompenses, et ne pensons qu'à lui-même. Oui, je viens bientôt. Les autres occasions n'appellent aucune réponse. Mais maintenant, l'épouse répond « Amen, viens Seigneur Jésus ». Le dernier verset nous dit que, jusqu'à ce moment béni, nous pouvons compter sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour être avec tous les saints. Amen.